Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Troisième épisode de cette série consacrée à cette grande figure. Il brûle, il est passionné par les âmes. C'est le cœur du prophète, un grand prophète Élie, son cœur bat.
Exactement. Ouais.
Bonjour frère Baptiste.
Bonjour.
Votre cœur à vous bat toujours, il brûle toujours comme le prophète Élie. Oui. Alors un livre est paru récemment, c'est un peu votre actualité frère Baptiste, de l'Assomption. Vous êtes Carme et un livre est paru récemment aux éditions du Carmel dans la collection Vive Flamme. Il s'intitule « Faire oraison avec les anges ». Ça tombe bien. Dans ce petit ouvrage, un premier chapitre est consacré au prophète Élie. Et cette émission aujourd'hui, ce troisième rendez-vous, c'est toujours le prophète Élie avec des grandes rencontres et des rencontres, j'ai presque envie de dire, angéliques.
Exactement.
Et parmi toutes ces rencontres angéliques, le prophète lui-même, Élie, va avoir une rencontre qui va venir un peu travailler ce cœur. Et c'est au désert.
Exactement.
Alors on part au désert quelques minutes avec vous et le prophète.
Oui, c'est ça, parce que le désert, on est au chapitre 19 du premier livre des Rois. Le feu est descendu du ciel sur le mont Carmel au chapitre 18. La pluie est revenue, donc on pourrait penser que Élie a remporté une grande victoire. Et pourtant, et c'est ça qui pose problème, c'est que Jézabel, ainsi que son mari de roi Acab, ne se sont pas convertis. Et on pourrait dire que c'est justement sur cette conversion du roi et de la reine que repose celle du peuple. Et donc, l'essentiel, en quelque sorte, est raté. Et d'ailleurs, Acab ne racontera à Jézabel que les actes de violence d'Élie, hein, quand il égorge les prophètes de Baal, si bien que Jézabel va menacer le prophète qui aura peur. Et donc ça, c'est déjà ça. Quelque chose de très intéressant. Élie, qui semblait sans peur ni reproche, comme un guerrier absolument inaccessible, en fait, va avoir peur et s'enfuir au désert. Et donc, c'est quelque chose qui est important dans sa vie, parce qu'on pourrait dire que son intériorité, pour la première fois, est manifestée par l'entremise de la peur.
Oui, ça le rend très humain, d'ailleurs.
Et ça le rend très humain, très proche de nous. Oui. C'est quand tout s'effondre, qu'est-ce qu'il me reste ? Et d'ailleurs, il a envie de mourir, il demande à Dieu de prendre sa vie, parce qu'il ne faisait pas mieux que ses pères. Alors là aussi, on peut lui poser la question, quel était le mobile de son action jusqu'à présent ? Est-ce que c'était de faire mieux ? Est-ce que c'était d'entrer en compétition ? Et si c'est cela, en réalité, justement, on comprend qu'Élie doit passer par une purification. Parce que le mobile de son action finalement devrait être, et puis comme le mobile de nos actions à nous, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu, mais pour y arriver, il y a tout un chemin et parfois ça prend toute une vie évidemment. Et donc Élie passe par l'épreuve, on pourrait dire que c'est son burn-out ou son spleen, enfin c'est le moment de l'effondrement, et c'est en ce sens aussi qu'il rejoint beaucoup de gens. Et il y a cette scène presque un peu humoristique où finalement il s'endort. Élie n'a plus rien d'autre à faire que de dormir. Il voudrait mourir et ne pas se réveiller. Donc c'est humoristique, mais en même temps un peu douloureux tout de même. Enfin où. Dramatique. On ne sait pas trop sur quel registre se placer.
On est dans un moment tragique dans la vie du prophète.
Il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de ça, mais la tragédie va très vite disparaître parce que quelqu'un arrive. Donc on imagine bien la scène. Ça pourrait être un film de cinéma. Et donc il y a le prophète qui s'endort au désert et puis quelqu'un passe. Ou dans Le Petit Prince, cette rencontre au désert absolument inopinée et qui va le toucher. Lui demander de se lever et puis de boire et de manger. Et donc, cette personne qui arrive, on voit qu'elle est très attentionnée à Élie dans son humanité. Et ça, c'est assez frappant. Élie s'exécute. Il va tout de même pas se lever, mais au moins il mange et boit et se rendort. Donc ça, c'est nous le matin quand on a du mal à se lever. On est un petit peu comme le prophète Élie. Et ce personnage réapparaît et cette fois-ci, il nous est dit que c'est l'ange du Seigneur. Il lui dit « Mange et bois, sinon le chemin sera trop long pour toi. » Et finalement, Élie mange, boit et se lève cette fois-ci et va être conduit après 40 jours et 40 nuits de marche dans le désert jusqu'à la montagne de l'Horeb.
Tout est symbolique, hein, parce qu'il obéit, il mange,
exactement.
Il boit, ouais. Il se relève, il se remet en marche. Ouais. Il y a un acte d'obéissance.
Tout à fait, hein, exactement.
Il s'ouvre à nouveau à la vie.
Il s'ouvre à la vie et même il reçoit une force. Vous voyez, il avait comme épuisé ses forces jusqu'à présent, ses forces humaines, qui étaient pourtant remplies de zèle pour Dieu. Et maintenant, il reçoit une force qui vient d'ailleurs. Vous voyez, et donc effectivement il s'ouvre à la vie avec une autre force que la sienne, d'où on pourrait dire cette marche de 40 jours et 40 nuits dans le désert.
Quel est le symbole, rappelez-nous, de ces 40 jours?
Alors
symboliquement dans la Bible,
on en parle, hein, comme d'un temps d'épreuve, et là on peut le prendre aussi vraiment comme une durée longue qui prépare Élie à la rencontre avec Dieu sur la montagne de l'Horeb. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que justement l'ange se manifeste à Élie juste dans ce moment de détresse. Donc là, on a vraiment quelque chose de récurrent dans les Écritures, c'est que les anges se manifestent surtout dans les moments de faiblesse. Et en plus, on pourrait dire, loin de pousser Élie à quitter cette terre et cette vie, vous voyez, on pourrait dire que la dévotion à l'ange, c'est une manière d'échapper aux réalités de ce monde. En fait, c'est exactement le contraire qui se passe. L'ange va ramener Élie à son humanité. Et donc, l'ange se fait le serviteur même de son prophète dans ce qu'il a de plus corporel et dans ses besoins les plus basiques. Et donc, on est aux antipodes de ce qu'on appelle la gnose, qui est une spiritualité selon laquelle il faudrait quitter le monde matériel pour entrer en relation avec la transcendance. Là, c'est vraiment le contraire. C'est un être spirituel vient auprès d'Élie dans sa détresse pour prendre soin de ses besoins les plus vitaux, mange et boit. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Et c'est aussi une belle leçon que cette venue de l'ange, parce que les gestes qu'il pose à l'égard d'Élie sont exactement ceux que Dieu avait posés pour lui à travers des corbeaux, pour une première fois, et à travers la veuve de Sarepta. Donc les corbeaux, au début de la vie, avaient pour mission de nourrir Élie en lui apportant du pain et de la viande, et puis la veuve de Sarepta aussi. Et donc c'est comme si il nous était dit que pour, on pourrait dire, entrer en relation avec l'ange, eh bien il y avait tous les étages du monde créé, matériel, qu'il fallait comme respecter. Et donc c'est d'abord avec un animal qu'Élie va entrer en relation pour percevoir la providence de Dieu à son égard. C'est avec une femme qu'il va entrer en relation. Et puis une fois que ces choses sont bien posées, en quelque sorte, une fois que ces étages du monde créé sont respectés, eh bien il pourra s'ouvrir à un monde plus mystérieux qui est celui des anges, un monde plus spirituel. Vous voyez, donc par tous les moyens possibles, il me semble que la Bible, et en particulier dans cette expérience d'Élie, cherche à nous faire comprendre que entrer au ciel dès cette terre, ce n'est pas s'évader hors de la chair, mais c'est au contraire justement devenir humain jusque dans le sens le plus concret du terme.
Vous décrivez très bien aussi le mystère de l'incarnation.
Exactement.
Dieu qui se fait homme.
C'est exactement ça qui se prépare. C'est-à-dire on voit bien que derrière ça, il y a cette préparation justement à la venue du ciel même sur la terre. Et on voit bien que ces deux réalités, bien qu'elles soient distinctes, dans la pensée biblique, ne sont pas séparées ni en opposition.
Vous avez parlé du corbeau, donc Dieu
oui.
Permet un peu l'apprivoisement de
en quelque
son
sorte,
fils,
ouais.
Parce que s'exerce une paternité entre Dieu, le Père, et puis ce prophète Élie,
exactement.
Qui a besoin de grandir.
Exactement, oui.
Cette épouse, cette veuve de Sarepta, il y a une délicatesse de Dieu pour le préparer à accueillir, est-ce qu'on peut parler d'accueil, ses interventions célestes et divines.
Oui.
Il faut que le cœur soit disponible,
oui.
Opérationnel, et quelque peu dans cette disposition du cœur, totalement, enfin en partie, un début d'abandon.
Oui, oui, c'est vraiment...
Le prophète Élie avait besoin d'un acte de lâcher prise.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Et c'est vrai qu'on le disait quelques rencontres précédemment, qu'Élie est éduqué à la paternité, mais pour qu'il devienne père, il apprend à être fils, en quelque sorte, de Dieu, qui prend soin de lui comme un père prend soin de son enfant. On le voit bien, on se posait la question... de son envoi effectif au tout début de sa vie. Est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé proclamer la sécheresse pour tout le peuple? C'est pas sûr, mais que Dieu répond, on pourrait dire, à l'initiative du prophète, au lieu de lui reprocher, peut-être, d'avoir agi sans sa permission, eh bien, Dieu va prendre soin de lui. Donc, effectivement, il agit avec une grande délicatesse en prenant soin de sa vie, c'est-à-dire en lui demandant de se cacher au Kérit, en le nourrissant par les corbeaux, et puis, après quelque temps, en l'envoyant à Sarepta pour être pris en charge par cette veuve. Donc, on voit qu'effectivement, par toutes les ressources de sa création, Dieu se manifeste comme un Père provident qui, par petites touches, effectivement, sans brimer la liberté d'Élie, hein, va prendre soin de lui et l'inviter justement à effectivement lâcher prise, on pourrait dire, au désert pour qu'il puisse se révéler à lui plus en plénitude dans cette fameuse voix de fin silence qu'il entend à l'Horeb. Ça, ce sera justement après avoir été préparé à l'écouter par la rencontre de l'ange.
Préparé à l'écouter.
Exactement. C'est vrai que c'est, on sent bien que cet ange est une étape qui conduit Élie à la rencontre avec Dieu.
Et ce cher frère Baptiste, hein, que nous recevons dans cette série des clés pour vivre, un bon rendez-vous demain.
À demain.
À la même heure. À demain. Et merci.